Merci Victor pour ces quelques mots et cette invitation. Alors oui, trois mots peut-être d'introduction sur l'abbaye de la Lucerne. Donc c'est une magnifique abbaye qui se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel, effectivement, où nous sommes arrivés en septembre dernier avec mon confrère l'abbé Henri Valençon, avec le but donc de rendre à ce lieu donc toute sa vie d'adoration de Dieu, en y chantant donc la liturgie, en y accueillant tous ceux qui ont soif de Dieu. Donc on y développe un centre spirituel et culturel. Et depuis notre arrivée, ça ne désemplit pas. Enfin voilà, il y a un passage continu et on y vit vraiment quantité de très belles rencontres de personnes qui sont voilà, attirées par la beauté, beauté du lieu, beauté de ce qui s'y déploie. Et il y a tout un apostolat par la beauté, beauté de la musique, beauté de l'architecture. Donc ça rejoint parfaitement votre thème. Et effectivement, donc le chant grégorien y occupe une place importante et c'est de ce chant grégorien dont je vais vous parler ce matin. Alors, voilà, effectivement. Alors, c'était un peu impressionnant d'imaginer que j'allais parler donc aux jeunes d'Academia Christiana du chant grégorien. Je me suis dit, les pauvres, ils vont venir à reculons à la conférence en se disant que c'est quelque chose de tout à fait soporifique. Alors je vais essayer de vous en parler avec le plus d'enthousiasme, évidemment le plus de fraîcheur pour que vous puissiez suivre attentivement mon propos. Alors je ne sais pas ce que vous connaissez du chant grégorien, un peu spontanément. Peut-être que beaucoup d'entre vous savent que c'est le répertoire le plus ancien, toujours chanté, de l'histoire de l'humanité, ce qui n'est quand même pas rien. D'imaginer que le chant propre de la liturgie catholique soit le chant le plus ancien, toujours chanté. Donc voilà, ça c'est certainement une chose qu'un certain nombre d'entre vous savent. Et peut-être d'autres savent aussi que c'est le répertoire le plus vaste de l'humanité. Vous savez qu'il y a en ce moment un projet qui s'appelle NEUMS. C'est un projet où donc les moniales de Jouques et les moines du Barou enregistrent la totalité des pièces qu'ils chantent en liturgie. Ce sont en fait des centaines de milliers de pièces d'antiennes, de répons, de cantiques, d'hymnes. Et ça devient le plus vaste enregistrement musical de toute l'histoire de l'humanité. Voilà notre répertoire. Et vous le savez, ce répertoire, le plus ancien et le plus vaste de l'histoire de l'humanité, est né en France, au milieu du 8e siècle. Et donc, nous avons, nous autres Français, eh bien, une responsabilité particulière par rapport à ce répertoire que nous avons offert au monde entier. Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Et puis je sais que vous aimez les petites histoires, et puis ça va vous aider à suivre. Je me trouvais à Pusan, en Corée. Vous connaissez peut-être cette ville, donc qui est le grand port de pêche de la Corée du Sud. Et donc j'allais visiter là-bas des amis, et il fallait que je puisse célébrer la Sainte Messe. Donc je me présente dans une église donc pour cela. Et j'avais à la main mon graduale, c'est-à-dire le livre de chants grégorien. Et le sacristain qui m'accueille dans cette église me dit Graduale triplex en voyant mon. Donc il avait compris que c'était du chant grégorien. Et là, il me fait monter dans sa voiture et on commence une tournée dans toute la ville. On s'arrête chez le poissonnier. Je vois le poissonnier fermer sa boutique, monter dans la voiture avec son graduale à la main. Ensuite, on s'arrête dans une autre boutique. Pareil, il ferme la boutique, il monte avec le graduale dans la voiture, etc. On a fait comme ça un petit tour de 10 minutes dans la ville. Et un quart d'heure après, j'avais une petite scola grégorienne prête à me chanter la messe, à me répondre, voilà, évidemment, je ne parlais pas coréen, ils ne parlaient pas français. Nous n'avons absolument pas pu échanger le moindre mot. Je ne sais rien de leur vie, si ce n'est qu'ils étaient poissonniers, bouchers et compagnie. Enfin, ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on a chanté una voce la messe ensemble. Et voilà que ces Coréens de Pusan se sont appropriés ce chant, encore une fois, qui est né au milieu du 8e siècle chez nous. Alors c'est évidemment tout à fait saisissant et impressionnant. Alors, cette petite anecdote passée, maintenant entrons donc dans la profondeur de ce répertoire. Alors je vais d'abord vous tracer à grands traits l'histoire du chant grégorien, voilà, pour que vous ayez tout simplement une idée de l'histoire de ce répertoire. Et puis ensuite, voilà, j'essaierai d'en retirer quelques points saillants, quelques éléments particulièrement impressionnants. Alors tout d'abord, vous dire que lorsque dans la Bible, lorsque Dieu manifeste ses hauts faits, l'homme spontanément répond par un chant. Alors le premier passage dans la Bible concernant cela, c'est bien sûr dans le livre de l'Exode, le fameux passage de la mer Rouge, et notre liturgie pascale en garde la mémoire. Vous savez, à la fin de la deuxième lecture, la dernière phrase est la suivante. « Alors les fils d'Israël chantèrent ce chant au Seigneur. » Voilà, le peuple vient de traverser la mer Rouge à pied sec. C'est un fait prodigieux. Pharaon et ses armées viennent d'être engloutis dans la mer Rouge. Et la première chose donc, qui vient au peuple, c'est de chanter son action de grâce. Et dans la liturgie, eh bien, ça s'enchaîne aussitôt, au cours de la vigile pascale, par le cantique « Cantemus Domino », que certains ont certainement en tête. « Cantemus Domino », etc. Voilà, très très beau cantique d'action de grâce. « Chantez au Seigneur, un chant nouveau », etc. Voilà. À l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, les hommes spontanément répondent par un chant. Et bien sûr que Dieu continue à intervenir, et la réponse amoureuse de notre humanité à cette action de Dieu dans l'histoire de l'humanité, j'ai pas dû chanter très juste. La réponse amoureuse donc de notre humanité à ce chant, eh bien, c'est la liturgie, tout le poème de la Sainte Liturgie, donc qui est une réponse à ces hauts faits de Dieu. Alors, vous savez que le chant grégorien est né de la psalmodie, tout a jailli de la psalmodie. Les premiers apôtres, quand ils ont commencé à se réunir, n'ont pas fait autre chose que ce qu'ils faisaient dans les synagogues, c'est-à-dire de chanter les psaumes, de psalmodier. Et donc c'est ainsi que la liturgie est née, avec des lectures et des cantiques. Et tout d'abord, ils l'ont fait en grec, car vous savez que au cours du 1er et 2e siècle, le grec avait la première place dans la liturgie. Il en reste une trace, bien sûr, avec l'usage du Kyrie eleison dans notre liturgie actuelle. Et puis, peu à peu, il y a eu, au cours du 3e et 4e siècle, un passage du grec au latin, à commencer par l'Afrique du Nord, qui était le centre le plus latinisant du bassin méditerranéen. Et donc, peu à peu, nous en sommes venus au latin. Voilà. Et alors, se sont développés, à partir du 4e siècle, des chants propres à chaque région. Alors, je les passe un peu en revue parce que c'est tout à fait intéressant. Il y avait donc d'abord le chant qu'on appelle mozarabe, le chant donc de l'Espagne, de la péninsule ibérique, qui a reçu aussi le nom de chant visigothique. Donc avec des grands centres comme Séville, Tolède. Il y avait le chant du sud de l'Italie, qu'on appelle le chant béneventin, qui était un répertoire complètement différent de celui qu'on chantait à Rome. Donc à Rome, on chantait le chant romain. Dans le nord de l'Italie, c'était encore un autre chant différent, qu'on appelle le chant ambrosien, c'est le chant propre de l'église de Milan. Et puis en Gaule, différents répertoires, on chantait un chant différent à Tours, à Lyon ou à Narbonne, et qui n'avait absolument rien à voir avec la liturgie romaine. Et puis, il y avait encore d'autres chants en Irlande, d'autres chants dans les Balkans, à Aquilée, etc. Bref, il n'y avait pas d'unité musicale au 5e, 6e, 7e siècle. Il n'y avait pas d'unité musicale de l'Église. Chaque région avait son chant propre. C'est une période aussi où le soliste a une place tout à fait prépondérante. Vous savez qu'on appelle le chant grégorien en référence au pape Grégoire, Saint Grégoire le Grand, donc qui était au 6e siècle, un pape qui a une grande œuvre liturgique. Et donc Saint Grégoire n'a produit qu'un seul texte officiel concernant la liturgie. C'est un texte où il interdit aux diacres de chanter autre chose que le chant de l'Évangile à la messe. Voilà, c'est le seul texte qui concerne le chant ou la musique de Saint Grégoire. Alors, tout simplement, à l'époque, on choisissait les diacres parmi les jeunes gens qui avaient les plus belles voix, ce qui en soi n'était pas un inconvénient, mais à force d'avoir des diacres qui avaient des belles voix, ils travaillaient tellement leur voix, ils poussaient tellement la chansonnette, qu'ils négligeaient le soin des pauvres et le service de la parole. Et donc, Saint Grégoire interdit aux diacres de chanter autre chose que l'Évangile. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Mais... Un autre exemple de cette place prépondérante du solis dans les premiers siècles. Est-ce que c'est pas un peu fort, non? Ça larcène un peu. On peut baisser un tout petit peu. Un autre exemple donc de cette influence du soliste. Je vous raconte un petit épisode qui se passe donc qui nous est rapporté par Grégoire de Tours. Vous savez que Grégoire de Tours, c'est le grand historien de la Gaule, et donc il raconte dans son Histoire des Gaules ce qui se passe pendant un banquet avec le roi Gontran. Voilà, le roi Gontran et Grégoire de Tours se trouvent donc au milieu du banquet, et le roi Gontran se penche vers Grégoire en lui demandant si le diacre qui la veille en la messe de Saint-Martin avait chanté le psaume responsorial accepterait de chanter pour les convives. Alors, bien sûr, ce diacre accepte et il pousse la chansonnette devant la table royale. Et puis, Grégoire raconte que, du coup, tous les évêques présents ont demandé à leur diacre de venir chanter pour les convives. Voilà, donc ça donne une idée de la beauté de ces chants, de la beauté, la puissance de ces voix et de l'effet que cela produisait sur ceux qui les entendaient. Cette tradition était extrêmement goûtée. Alors, un autre élément tout à fait impressionnant, c'était bien sûr que tous ces chants étaient des chants qui étaient sus par cœur, par ceux qui les donnaient, puisque évidemment il n'y avait pas de moyen de noter le répertoire. Alors je vais y venir. Voilà. Alors peu à peu donc, de ce chant du soliste, avec la construction de grands édifices, eh bien des scolas vont se développer, et puis dans l'architecture religieuse, des lieux où la scola se place, les fameux chancels, où il y avait des places pour la scola. On voit ça dans beaucoup d'architecture paléochrétienne. Et donc la scola avait un rôle véritable au milieu du chœur. Elle n'était pas, comme je vois dans certaines églises, reliée à la tribune pour chanter, enfin voilà, le texte sacré en tenue civile. Non, elle avait une tenue de chœur, elle se plaçait dans le sanctuaire. Et elle avait un véritable rôle puisqu'elle met sur ses lèvres la parole de Dieu chantée. Donc c'est un rôle éminent et donc évidemment c'est normal qu'elle ait une place particulière. Alors, donc nous en arrivons au 8e siècle et là il va se passer donc quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est l'époque de Pépin le Bref, vous connaissez tous Pépin le Bref. Nous sommes en 754. Et Pépin le Bref a l'idée d'inviter le pape à venir séjourner dans son royaume. Étienne II accepte et il va venir donc pendant 2 ans séjourner en Gaule. Il est accueilli à Poncion, au château donc de Pépin, et de là il se rend à Saint-Denis, la grande abbaye, la fameuse abbaye de Saint-Denis. Alors évidemment, lorsque le pape visite comme ça un royaume comme donc le royaume de Pépin. Il ne se déplace pas seul, il vient avec ses chantres, donc il a toute une cour pontificale qui l'accompagne. Et là, ça va être une rencontre absolument incroyable, puisque finalement, le Pépin se rend compte qu'il n'est pas capable de chanter, enfin, ou de répondre à la messe pontificale, et que voilà, les membres de la cour pontificale, s'ils assistent à une liturgie à Saint-Denis, sont incapables de répondre au chant gallican. Et donc, du coup, Pépin, c'était l'époque où, donc, une période assez étonnante où il y avait, d'un point de vue politique, des initiatives dans la liturgie. C'était une époque où on s'intéressait, où nos dirigeants s'intéressaient au chant liturgique. Étonnant, n'est-ce pas? Et donc, le roi des Francs, Pépin, donc, décide d'imposer le chant et les usages de Rome à son royaume, pour unifier son royaume et pour renforcer ses liens. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est une décision absolument dingue et qui ne va pas passer pour ces chantres gallicans qui aimaient beaucoup leur répertoire. Ils vont se dire, non mais ça va pas, enfin, je veux dire, on ne va pas abandonner notre répertoire au profit d'un chant qui, entre nous en plus, était beaucoup moins beau. Le chant romain était un chant assez ennuyeux. Avec des écarts assez faibles, c'est-à-dire un ambitus assez restreint, et donc un chant assez redondant et assez peu mélodieux. Alors que le chant gallican, Cocorico, le chant gallican, lui avait des envolées lyriques, des grands mélismes. Vous voyez ce qu'on appelle un mélisme? Non, c'est quand sur une syllabe, bon, c'est tout à fait typique du chant grégorien, mais quand sur une syllabe, vous avez, ça n'en finit plus. Je peux te donner un exemple. Il y voilà, une seule syllabe, vous avez un mélisme. Alors ça, les Gallicans, ils raffolaient de ça parce que, enfin voilà, ça vous permet, vous avez une architecture qui résonne, vous faites un grand mélisme comme ça fait un effet d'œuf. Voilà, et donc ça, on ne trouvait pas ça du tout, du tout, du tout dans le chant romain. Et donc, vous imaginez les chants de Gallican qui entendent l'édit royal interdisant, enfin en tout cas ordonnant donc d'imposer le chant de Rome. Ils se disent, et pas question. Enfin, je veux dire, Et puis les chantres romains se sont dit, quand même, le répertoire gallican, il a une sacrée gueule. Ce serait peut-être pas mal de pouvoir l'avoir aussi un petit peu dans notre répertoire. Et donc, en fait, ils vont se retrouver du côté de Metz. Et il va y avoir donc une sorte de laboratoire où va être élaboré un nouveau chant qui va être la fusion du chant romain et du chant gallican, qu'on a appelé donc le chant romano-franc, romano-gallican. Donc c'est la fusion du chant romain et du chant gallican. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pris les textes de la liturgie romaine, donc tous les textes officiels qui sont aujourd'hui les mêmes pièces qu'aujourd'hui, les mêmes introïdes, graduelles, offertoires. Voilà, ça n'a pas bougé d'un poil depuis le 8e siècle, mais on va eh bien, composer de nouvelles mélodies, qui sont donc des mélodies romano-gallicanes, et qui seront donc tout à fait nouvelles. Alors ce chant va se répandre comme une traînée de poudre, et on va avoir ce spectacle absolument hallucinant, où au bout donc de quelques années, toute l'Europe va chanter les mêmes mélodies. C'est-à-dire que l'unité de l'Europe a été parfaitement réalisée, au 9e, 10e, 11e siècle, puisque on chantait exactement, vous entendiez le même chant d'entrée que vous trouviez à Tolède, à Einsiedeln en Suisse, dans le sud de l'Italie, ou bien à Tours, en Narbonne. Enfin voilà, c'était un chant qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Alors, un gros problème, c'est comment transmettre le chant, car évidemment, la portée musicale n'existait pas, et donc on ne pouvait pas écrire. Isidore de Séville, qui était évêque de Séville il est mort vers 636, dans son traité sur la musique, la deuxième phrase qu'il écrit est la suivante: si les sons ne sont pas retenus de mémoire par le chanteur, ils sont perdus car on ne sait pas les écrire. Voilà, c'est la règle immuable des premiers siècles. Si vous ne connaissez pas par cœur les mélodies, eh bien, elles sont perdues pour jamais puisque on ne peut pas les écrire. Donc, ça veut dire très concrètement que les mélodies étaient sues par cœur. Il fallait, chers amis, écoutez bien, il fallait 15 ans pour former un chantre qui connaissait la totalité des pièces par cœur. C'est-à-dire des dizaines de milliers de pièces étaient sues par cœur par les chantres. Alors ils avaient des livres qui servaient d'aide-mémoire, où ils avaient des petits signes pneumatiques qui leur indiquaient trois notes qui montent, quatre notes qui descendent. Enfin, voilà donc quelques indications, mais ils n'utilisaient pas ces livres au cœur. Il chantait absolument par cœur et toute la scola chantait par cœur. Et donc il fallait 15 ans pour former un chantre qui avait mémorisé la totalité du répertoire. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux parce que c'était donc des milliers de pièces qui étaient sues par cœur par les chantres. Donc on était évidemment dans une tradition orale. On a du mal à imaginer cela aujourd'hui. Et puis, nous sommes, donc ce 8e siècle est une période, 8e, fin du 8e, début du 9e siècle, c'est une période aussi tout à fait charnière, puisque, en fait, le latin, curieusement, est plus vivant en France qu'à Rome. C'est la fameuse Renaissance carolingienne, avec Alcuin et donc plein d'intellectuels de l'époque, l'ars benedicendi, l'art de bien parler, de bien dire. Et puis vous savez que même au niveau des lettrines, de l'enluminure, etc., c'est les fameuses carolines. Donc en Gaule, voilà, on écrit bien mieux le latin, on le transmet bien mieux, on a une langue plus pure qu'à Rome. Et c'est donc dans ce contexte de cette Renaissance carolingienne, avec Pépin et Charlemagne et donc tout leur entourage, que ce nouveau répertoire va jaillir. Voilà. Donc les barbares était de fait plus attaché à la pureté de la langue latine que Rome. Et donc c'est la première renaissance carolingienne. À cette époque, donc à Rome, c'était un peu la décadence. Alors, je vous raconte une autre petite anecdote tout à fait intéressante, c'est que Dom Mokrou, qui va être l'un des artisans du renouveau du chant grégorien, un jour donc se trouve à Rome, nous sommes en 1890, et il découvre un livre de chant grégorien, qui est apparemment du XIVe siècle, où il y a tous les textes sont bien ceux de la liturgie actuelle, mais les mélodies sont complètement différentes. Alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est certainement du grégorien complètement dégénéré. Il écrit à Don Guéranger, non, il n'écrit pas à Don Guéranger, enfin, il écrit donc à l'abbaye de Solesmes en écrivant « Il faut que je vous parle d'une découverte. Il s'agit d'un graduel du XIIe siècle, dont la liturgie est certainement romaine, sauf quelques légères particularités, mais dont le chant n'est plus celui qui est donné par tous les manuscrits de tous les pays. Il y a là une exception qui m'intrigue. Ces mélodies semblent dater d'une époque relativement récente dans laquelle les règles de composition grégorienne commençaient à tomber en désuétude. » Voilà ce qu'il écrit. En fait, ce manuscrit qu'il avait découvert était le chant dit vieux romain, c'est-à-dire il avait redécouvert un manuscrit du chant d'avant, donc le chant grégorien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un pape au XIIIe siècle a ordonné la destruction de tous les manuscrits de chants vieux romains pour imposer le chant grégorien. Et donc, on n'avait quasiment plus aucun manuscrit. En tout et pour tout, on en a retrouvé 5 aujourd'hui de ces manuscrits de vieux romains. Et donc, voilà, Dom Mokrou retrouve ce manuscrit. Il se demande en présence de quoi il se trouve. Il pense que c'est du grégorien dégénéré. En fait, il venait de redécouvrir l'ancêtre, on pourrait dire, du chant grégorien, ce fameux chant chanté à l'époque d'Étienne II et au moment de la composition du répertoire grégorien. Voilà. Alors, donc, les deux chants vont coexister comme ça pendant plusieurs siècles à Rome, le chant romain et le chant grégorien. Je vous en donne un exemple. Au XIIe siècle, le pape, lui, était assez tradit. Il conservait le chant vieux romain, il continuait de chanter le vieux chant de Rome, tandis qu'au Latran, dans sa cathédrale, ils avaient déjà adopté le chant grégorien. C'était des chanoines allemands, les chanoines du Latran, et eux chantaient le chant grégorien. Et à chaque fois que le pape de Saint-Pierre venait à la basilique du Latran, il fallait que les chanoines du Latran aillent embaucher des chantres en ville pour être capables de répondre à la messe du pape. Le chanoine Bernard écrit « Quand l'apostolique, c'est-à-dire le pape, quand l'apostolique vient célébrer la messe chez nous, les chanoines sont priés de se mettre au chevet de l'église et de se tenir calmement. Ce jour-là, le prieur ira en ville pour recruter 4 chantres vigoureux parce que nous ne savons pas répondre au chant du pape. » Voilà. Donc c'est assez amusant. On est au XIIe siècle. Les chanoines du Latran, qui sont la cathédrale du pape, ils sont incapables de répondre à la messe du pape et donc ils sont obligés d'aller embaucher des chantres pour être capables de répondre à la messe du pape. À l'époque, il y avait donc 2 chants totalement différents qui cohabitaient dans la ville. Et puis, bon, au XIIIe siècle, donc, un pape ordonne la destruction de tous les manuscrits de vieux romains et il impose le chant grégorien à Rome. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le chant grégorien s'est imposé partout dans tout le reste de l'Europe très rapidement, sauf à Rome et sauf à Milan, où le chant ambrosien est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais partout ailleurs, donc, ce chant s'est imposé, et Rome, c'est seulement donc, au XIIIe siècle que Rome a définitivement imposé le chant grégorien partout, y compris à la cour pontificale. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, ce fameux chant grégorien est né donc, au carrefour du 8e siècle, dans cette région messine, et donc c'est un chant où l'influence gallicane est absolument gigantesque. Alors, donc je vous l'ai dit, dans les premiers siècles, c'était un chant donc uniquement oral. On arrive donc à un virage très important. Nous sommes au XIe siècle. Il y a un homme qui s'appelle Guido d'Arezzo, donc qui va avoir une invention qui va littéralement bouleverser l'histoire de la musique. Ce type va, donc c'était un moine, il va donc à inventer la portée musicale. Ça aura une portée, enfin, c'est le cas de le dire, une portée considérable. Qu'est-ce qui se passe? On est dans les années 1030 et a lieu donc cette rencontre assez exceptionnelle entre Guy d'Arezzo et le pape Jean XIX. Le pape Jean XIX avait entendu parler de cette école d'Arezzo où des jeunes étaient capables de chanter des mélodies qu'ils n'avaient pas entendues précédemment. La renommée de l'école de Guido était gigantesque. Et effectivement, donc la démonstration a lieu. Au bout de 3 invitations, Guido finit par venir rencontrer donc le pape. Et effectivement, la démonstration est spectaculaire. Les enfants y apprennent des mélodies qu'ils n'ont jamais entendues et donc ils peuvent déchiffrer des mélodies. C'est un virage gigantesque dans l'histoire de la musique, puisque jusque-là, si vous chantiez une mélodie, vous deviez l'avoir apprise par cœur précédemment et donc la mémoriser. Donc là, on sort de l'oralité, on sort de ce chant comme mémoire et désormais, on peut déchiffrer les mélodies. C'est le fameux virage du XIe siècle, le passage d'une musique qui est purement de tradition orale à une musique qui devient écrite. Voilà. Alors, ça ne va pas entraîner la dégradation du répertoire. On va continuer à chanter le répertoire grégorien dans toute sa force, dans toute sa pureté, jusqu'à un événement qui se déroule donc au XVIe siècle et qui est le Concile de Trente. C'est assez curieux, mais le Concile de Trente est le concile qui va entraîner l'abandon, la chute, la ruine du répertoire grégorien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pape Pie V, comme vous le savez, convoque le Concile de Trente et il va faire éditer 2 livres à la suite de ce concile, 2 livres principaux, le Missel, le fameux Missel de Saint Pie V, et un bréviaire. Et il y a des dispositions du Concile de Trente sur le chant, qui sont les suivantes. Il demande donc la réforme du chant. On demande que l'accent soit déplacé, que le mélisme, c'est-à-dire la grande formule mélodique, comme je vous ai chanté tout à l'heure, qu'on la déplace sur l'accent. Et puis, on demande aussi que les mélismes trop longs soient carrément massicotés, c'est-à-dire qu'on les retire. Alors, c'est littéralement un massacre du répertoire de faire ça. Et ça, c'est Palestrina, le grand Palestrina, donc qui va être chargé de cela. De ce travail va naître une édition qu'on appelle l'édition médicéenne, qui est juste ignoble d'un point de vue musical. Alors, je vous en donne un exemple. Vous connaissez tous le Ec Dies, c'est le graduel du jour de Pâques, très très belle pièce. Et donc, il y a la formule Inea. Alors, je vous la chante dans la version grégorienne. Et ensuite, je vous la chante dans la version médicienne. Ça donne. Donc, ça, c'est la version grégorienne. Maintenant, la version médicienne. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, ils ont juste pris un massicot et... Voilà, donc tous les mélismes sautent, on déplace les mélismes sur l'accent et ils sont hyper réduits. Donc c'est véritablement du massacre à la tronçonneuse. Et donc voilà, le travail musical du Concile de Trente, c'est une véritable décadence des mélodies grégoriennes et décadence qui va durer plusieurs siècles. Alors, le répertoire de cette édition de Médicienne est tellement moche que différents diocèses vont composer leur propre répertoire, leur propre graduel. Ainsi, le diocèse de Paris demande à un chanoine d'Auxerre, l'abbé Leboeuf, de composer l'intégralité du graduel de Paris. Donc, il va composer toutes les mélodies et on va avoir plein de plein chants comme ça, ce qu'on a appelé le plein chant, qui n'est pas du grégorien, mais c'est des répertoires propres à chaque diocèse. Dans mon diocèse c'est-à-dire notre diocèse, puisqu'il y a le chanoine à Zurich, dans notre diocèse de Coutances, on va avoir aussi notre propre plein chant, le plein chant coutançais, avec des mélodies qui n'ont rien à voir avec le chant grégorien, qui sont totalement sorties de nulle part. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement une perte de l'unité. Jusque-là, toute la chrétienté chantait les mêmes pièces, et avec donc, le désastre musical de Trente, chaque diocèse, chaque lieu a son propre répertoire, chaque congrégation, chaque ordre. Et donc, on a complètement perdu cette unité musicale. C'est la période aussi où vous avez peut-être déjà entendu parler de la messe royale de Dumont. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu ça? C'est la messe royale de Dumont, c'est du répertoire voilà, plein chantesque, donc qui va se répandre partout, les fameux pleins chants gallicans, qui s'opposent donc au chant de Rome. Et arrive un événement donc, qui est bien sûr la Révolution française, qui est un désastre. Vous savez que 2 tiers du patrimoine mobilier disparaissent, 1 tiers du patrimoine immobilier disparaît dans le royaume. Donc c'est un saccage, un vandalisme sans nom, qui va être un traumatisme gigantesque et qui va faire jaillir un mouvement au XIXe siècle, qui va être un mouvement romantique de restauration, d'idéalisation du Moyen Âge. On va vouloir revenir à l'âge d'or. Ça va être le travail du XIXe siècle. Et donc, on va développer une idée, donc un nouveau concept qui n'avait jamais existé jusque-là, le concept de restauration. Jusque-là, chaque époque produisait quelque chose de nouveau. Le traumatisme de la Révolution française a été tel que, eh bien, ce concept de restauration va jaillir. Il va être défini dans le dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc, restaurateur de Notre-Dame, de Fontevraud et de bien d'autres lieux. Voilà ce qu'il écrit, Viollet-le-Duc. Il écrit restauration. Le mot et la chose sont nouveaux. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Nous avons dit que le mot et la chose sont modernes. Et en effet, aucune civilisation, aucun peuple dans les temps écoulés n'a entendu faire des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui. C'est parfaitement clair. Donc effectivement, le concept est complètement nouveau. Et effectivement, on va chercher à refaire des édifices sous la forme d'un Moyen Âge quelque peu idéalisé. Et le même travail va être accompli pour le chant grégorien, c'est-à-dire qu'on va vouloir rétablir le chant grégorien dans son âge d'or, ce chant très pur du Moyen Âge, mais dans un état où en fait il n'a jamais existé dans les siècles passés. Donc ce qu'on fait pour l'architecture, on va le faire donc pour le chant grégorien. L'idée de base à Solesmes va être de rétablir le chant grégorien dans un état idéal, sachant qu'il n'a probablement jamais connu cet état. Alors, comment ce travail va être accompli? Alors, c'est donc Solesmes, l'abbaye de Solesmes, qui va être dans la Sarthe, qui va être le fer de lance de ce travail. L'Église va confier donc à Solesmes ce travail, et donc des moines de Solesmes vont partir dans l'Europe entière pour microfilmer les manuscrits de chant grégorien dans toutes les abbayes. Ils vont rapporter ça à Solesmes, et à partir de toutes ces mélodies, eh bien, ils vont, entre guillemets, faire le tri et choisir une mélodie idéale qui va devenir la mélodie officielle de l'Église. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, on va avoir un livre de chant officiel pour toute l'Église. C'est ce qui va se produire donc avec donc la sortie du Graduel de 1908. C'est le pape Pie X qui va donc ordonner dans son motu proprio donc l'édition d'un livre officiel pour toute l'Église. Première fois dans toute l'histoire qu'il y a donc un livre de chant officiel pour toute l'Église. Et donc ça va être quelque chose d'assez assez impressionnant. Alors je cite Pie XII dans son motu proprio. Pour cette raison, le chant grégorien a toujours été considéré comme le modèle suprême de la musique sacrée. On peut établir en toute raison cette loi générale. Plus une composition d'église est sacrée, liturgique, plus dans son allure, dans son inspiration, dans sa saveur, elle se rapproche de la mélodie grégorienne. Il ajoute, l'antique chant grégorien traditionnel devra donc être largement rétabli dans les fonctions du culte. En particulier, on veillera à rétablir le chant grégorien pour l'usage du peuple, de telle sorte que les fidèles prennent de nouveau une part active dans les offices ecclésiastiques, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Donc voilà, donc le pape, l'Église décide d'abandonner le plein chant et d'ordonner donc la restauration, selon le concept que je vous ai donc établi, donc de réimposer le chant grégorien donc dans toute sa beauté, dans toute sa pureté. Donc ça va avoir un effet assez impressionnant. Je peux vous dire que, pour prendre un exemple normand, il y avait les ralliés à Rome et ceux qui faisaient de la résistance. On pouvait faire une cartographie du diocèse dans mon diocèse de Coutances. Il y avait les paroisses qui disaient « Non, nous, on va garder le plein chant coutancé. » Et donc, il n'est pas question, on ne va pas prendre le chant grégorien, on a toujours chanté le plein chant coutancé. Et puis les grosses paroisses surtout, qui se sont rapidement ralliées à la décision romaine et qui ont adopté le chant grégorien. Et donc, c'était assez drôle parce que donc, il y avait les églises ralliées et les églises faisant de la résistance. Et ça a duré jusque dans les années 70. Il y en a qui ont fait de la résistance jusque dans les années 70, où malheureusement, vous le savez, années 60, où tout a été abandonné. Et l'Église, donc, les textes du Concile Vatican II vont dire, enfin, il va y avoir la phrase la plus... Jamais l'Église n'a dit une chose aussi forte pour le chant grégorien. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est pourquoi il doit occuper la première place. Voilà. Jamais l'Église n'a dit quelque chose aussi fort pour le chant grégorien. Et au moment où elle le dit, eh bien, ce chant est abandonné presque partout, sauf fort heureusement dans quelques communautés intrépides qui vont résister pour que ce joyau, ce trésor de l'Occident chrétien ne disparaisse pas. Voilà. Alors, donc ce travail de restauration du chant grégorien était une œuvre absolument magistrale, très impressionnante, et qui va donc permettre de redonner, d'offrir de nouveau ce répertoire à l'Église universelle. Aujourd'hui, donc à la suite de ce motu proprio de Saint Pilice, ce chant grégorien donc, continue d'être pratiqué dans le monde entier. C'est tout à fait par le chant grégorien, j'ai eu la grâce de voyager vraiment dans beaucoup de pays, et c'est toujours absolument sidérant et tellement bouleversant de rencontrer des Malgaches, des Béninois, de rencontrer des Philippins, des Japonais. Vous allez à Tokyo, vous avez le grand centre Saint-Grégoire où on transmet le chant grégorien. Vous avez des myriades de jeunes qui apprennent ce répertoire. Vous allez au fin fond du Paraguay et vous voyez des scolas grégoriennes où ce chant est transmis, etc. etc. Enfin, voilà, donc c'est tout à fait bouleversant de voir combien ce chant, encore aujourd'hui, est vecteur d'unité dans l'Église. J'ai quelques années un ami qui était missionnaire en Afrique et qui régulièrement m'envoyait des vidéos de la scola grégorienne de son petit village au fin fond de la brousse au Congo, où la scola chantait le Credo 4. Moi, je n'ai jamais chanté le Credo 4 de ma vie. Je ne suis pas certain qu'aucun dans notre salle ici ait chanté le Credo 4, qui est pourtant dans tous nos missels. Eh bien, au fin fond du Congo, on chante le Credo 4. Voilà. Étonnant, la manière dont ce répertoire né en Gaule tout simplement, c'est répandu partout. Et combien des peuples qui se sont appropriés ce chant et l'ont fait leur. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait saisissant. Alors voilà, j'en ai fini avec d'avoir tracé à grands traits. Donc alors évidemment, j'appelle de mes voeux un vaste renouveau du chant grégorien, parce que il faut tout simplement saisir que le chant grégorien est à la base de toute la musique en Occident. Et tout, que ce soit donc les modes, que ce soit donc notre système tonal aujourd'hui, tout vient du chant grégorien, le nom des notes vient du chant grégorien, tant et si bien qu'un petit Colombien ou un petit Slovaque qui est dans son école de musique en train d'apprendre le nom des notes, sans le savoir, eh bien, il utilise quelque chose qui vient du chant grégorien. Je ne sais pas si vous-même, vous savez que le nom des notes, c'est Guido d'Arezzo aussi, le même qui a donné donc le nom aux notes, et ça vient d'une hymne très fameuse, le Ut Quiant Laxis. C'est l'hymne que nous chantons pour la Saint-Jean-Baptiste, donc le 24 juin, et c'est une hymne où chaque strophe commence sur une note plus haute. Je vous la chante, ce sera plus facile de comprendre. Ut Quiant Laxis Resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labireatum, sancte Ioannes. Ut, re, mi, fa, sol, la. Et le si, c'est sancte Ioannes. S-I, sancte Ioannes, Saint Jean. Voilà. Donc, en fait, le nom des notes vient d'une hymne grégorienne. On a remplacé le « ut », qui n'était pas très facile à dire, par « do » de « dominus », le Seigneur, un petit peu plus tard, au XIIIe siècle, pour pouvoir solfier plus facilement avec le nom des notes. Et donc, aujourd'hui, tous les petits musiciens à travers le monde, sans le savoir, eh bien, font référence à une hymne du 8e siècle en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, dont la première syllabe a servi pour donner le nom des notes. Voilà, tout vient du chant grégorien. Toute la théorie de la musique, toute la musique en Occident vient du chant grégorien. Impossible de faire impasse de ce répertoire. Alors, bien sûr, ce répertoire qui a un lien viscéral avec la foi, le pape Benoît XVI soulignait ce rôle irremplaçable de la musique pour s'élever. La musique, et particulièrement le chant grégorien, est précisément capable d'ouvrir les esprits et les cœurs à la dimension de l'esprit et conduit les personnes à lever le regard vers le haut, à s'ouvrir au bien et au beau absolu qui trouvent leur source ultime en Dieu. Et le compositeur Olivier Messiaen, qui est le compositeur français le plus joué, compositeur du XXe siècle le plus joué au monde, écrivait: La musique fait ce que font les vitraux et les rosaces du Moyen-Âge. Elle nous apporte l'éblouissement. Touchant à la fois nos sens les plus nobles, l'ouïe et la vue, elle ébranle notre sensibilité, excite notre imagination, accroît notre intelligence. Elle nous pousse à dépasser les concepts, à aborder ce qui est plus haut que le raisonnement et l'intuition, c'est-à-dire la foi et sa continuation logique, la contemplation réelle, la vision béatifique après la mort. Vous voyez comme la musique, et en particulier le chant grégorien, a ce pouvoir, voilà, de nous faire entrer dans les mystères de foi et de nous introduire dans des réalités qui dépassent infiniment ce que nous pouvons appréhender ici-bas. Alors, cependant, la musique, comme le disait aussi Olivier Messiaen, le fait par défaut de vérité, mais un jour nous serons dans l'excès de vérité, mais ce sera au ciel. Il écrit: La musique est un perpétuel dialogue entre l'espace et le temps, entre le son et la couleur, dialogue qui aboutit à unification. Le musicien qui pense, voit, entend, parle au moyen de ces notions fondamentales peut, dans une certaine mesure, s'approcher de l'au-delà. Et comme le dit saint Thomas, la musique nous porte à Dieu par défaut de vérité, jusqu'au jour où lui-même nous éblouira par excès de vérité. Alors, je voudrais encore souligner quelques aspects du chant. Le chant nous fait vivre une expérience magnifique qui est le sacrifice du temps. Soyons très clairs, le chant sacré ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien à vue humaine. Chanter, c'est avant tout donner, brûler son temps, en faire une offrande à Dieu. Et c'est certainement la première vertu dans la transmission du chant grégorien aux jeunes générations, c'est leur apprendre à offrir ce qui nous définit et nous limite, ce qui nous manque à chaque instant un peu plus, le temps. Et c'est proprement salutaire dans les temps qui sont les autres, qui sont les nôtres, de tout simplement être en capacité, voilà, de faire cette offrande à Dieu, de ce chant sublime qui est pure gratuité, pur don, et qui, encore une fois, à vue humaine, ne rapporte rien. C'est certainement cette gratuité dans le chant est certainement une chose absolument vertueuse pour les temps qui sont les nôtres. Je vous ai parlé donc tout à l'heure du chant dans son lien avec la mémoire. Le chant est aussi une école de la mémoire. Je ne sais pas si vous savez, est-ce que le Christ a chanté? Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce que vous savez si le Christ a chanté? Et s'il a chanté, quand est-ce qu'il est fait mention du Christ qui chante? Est très fort celui-là. Je ne sais pas ton prénom,
mais.
Très beau prénom. Ils sont bons, les Guillaume. Eh bien, tu as tout à fait raison, Guillaume. Exactement. La seule mention du Christ qui chante, c'est à un moment absolument crucial. Il vient d'instituer l'Eucharistie. Il vient donc de prononcer les paroles. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il sort du Cénacle, il se rend avec les apôtres au Jardin des Oliviers, et juste avant donc de partir pour le Jardin des Oliviers, eh bien, il est mentionné que le Christ chante. Ayant chanté les psaumes, il part pour le jardin du Gethsémani. Et vous savez très bien ce qui se passe à Gethsémani, c'est la fameuse heure des ténèbres. Il dit, Le Christ dit, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Cette heure des ténèbres, c'est le moment absolument fatidique de sa vie où il va décider d'aller jusqu'au bout de l'absolu du don, du sacrifice. Il décide de donner sa vie pour notre humanité ingrate. Et il va aller jusqu'à l'absolu du don, l'absolu du sacrifice. C'est cette heure des ténèbres où il décide de donner sa vie. Et puis après, évidemment, c'est la passion qui démarre. La seule mention du chant, c'est à ce moment précis où il quitte le cénacle, il vient de se donner en nourriture et il va vers son sacrifice, la décision d'aller jusqu'au bout du sacrifice, cette heure des ténèbres. C'est à ce moment-là qu'il chante. Alors c'est absolument génial que la seule mention du Christ chantant soit à ce moment-là. Et le terme, le verbe grec qui est utilisé ici dans l'évangile, c'est « umne santes », ayant chanté les psaumes, « umne santes ». Dans « umne santes », vous avez la racine indo-européenne « n », « n », qui est la mémoire. Vous savez, « n », c'est la mémoire, qu'on retrouve par exemple dans le mot « anamnèse ». D'ailleurs, dans les paroles de la consécration, c'est « tuto poiete este emen anamnésine ». Faites ceci en mémoire de moi, « anamnésine ». Donc cette même racine se trouve aussi dans le mot « hymne ». Hymne, il y a n. Voilà. Une hymne, c'est donc un chant qui permet de faire mémoire. Chanter, c'est donc faire mémoire. Faire mémoire des hauts faits de Dieu dans l'histoire. C'est juste génial d'imaginer que... Alors, j'ai vu que vous aimiez chanter. J'ai vu que vous aimiez aussi connaître par cœur des quantités de chants. Alors, c'est bien de connaître plein de répertoires bien virils, bien enracinés. Mais c'est bien aussi de connaître... Donc, de mettre sur vos lèvres la parole de Dieu, c'est-à-dire les paroles de Dieu même, est offerte par la liturgie et le chant grégorien, ce n'est que cela. Vous savez que le chant grégorien est constitué à 99,9% uniquement de paroles tirées de la Sainte Écriture. Donc, on met sur nos lèvres la parole que Dieu lui-même nous a donnée. Et alors, elle nous imprègne, elle nous transforme, elle nous sanctifie. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler du jeune Antoine de Nagasaki ? Nous sommes à Nagasaki en 1597. Vous savez qu'il y a 26 crucifiés qui vont mourir. Donc on a préparé les croix, ils vont être crucifiés comme Jésus. Le plus jeune d'entre eux s'appelle Antoine. Il a 13 ans. Il a reçu le baptême quelques mois auparavant et il décide d'accompagner les pères franciscains dans leur martyre. Les pères essayent de le convaincre de ne pas y aller. Rien à faire, il veut donner sa vie, lui aussi. Et alors que la foule insulte, leur crache dessus, alors qu'ils sont crucifiés, le jeune Antoine se met à chanter le Laudate Pueri. Enfant, louez le Seigneur, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Voilà. Et il chante de toutes ses forces ce Laudate Pueri. Et la foule est retournée. Elle se met à insulter les soldats, elle plaint ceux qui sont en train d'être crucifiés, et puis excédé, un des soldats prend sa lance et interrompt le jeune Antoine en lui transperçant le côté avec sa lance. Et le jeune Antoine meurt comme le Christ, avec son côté transpercé, alors qu'il chantait les louanges du Seigneur. Voilà le fruit de la mémoire, ce jeune Antoine, qui était un jeune néophyte qui avait reçu la grâce du baptême depuis peu. Il s'était imprégné de cette mémoire, il pouvait chanter ce psaume par cœur, et voilà que ça l'a préparé au don de lui-même. Quel éblouissement. Une autre anecdote, quelques siècles après, Nagasaki, vous savez bien, c'est le lieu où le 9 août 1945, donc la bombe va entraîner donc la mort de 90 000 personnes en quelques minutes. Et le Takashi Nagai, qui était donc dans son hôpital au moment où la bombe est tombée, raconte que juste à côté de son hôpital, il y avait un couvent de nonnes bénédictines. Parce que vous savez que Nagasaki, c'était la ville avec Hiroshima, les deux villes les plus catholiques du Japon, avec des quantités de noviciats, de couvents, etc. Voilà. Et donc, le professeur Nagai raconte qu'il a entendu les chants s'élever, le chant grégorien s'élever juste à côté Il entendait ce chant lointainement alors que tous les rescapés arrivaient vers l'hôpital avec le corps complètement calciné. Voilà. Et il entend ce chant de plus en plus faible jusqu'à ce que ce chant grégorien s'éteigne complètement. C'était des sœurs qui avaient un orphelinat aussi. Quand au bout de 48 heures, il a enfin pu quitter donc son service de radiologie pour se rendre, pour voir si ce qu'il restait de sa maison. Bon, il a retrouvé que le chapelet calciné de son épouse, il n'a rien retrouvé de son épouse, qui était juste au niveau de l'épicentre. Il a aperçu le corps des nonnes. Elles étaient entièrement nues. Le feu avait tout brûlé. Et elles étaient avec les enfants, qui étaient nus aussi, avec les corps entièrement brûlés. Et elles sont descendues vers le fleuve et elles sont mortes en chantant les hymnes grégoriennes, en s'éteignant les unes après les autres. Et voilà, elles sont mortes en faisant monter vers le ciel cette prière, cette offrande, par le chant. Et voilà comment meurt une religieuse catholique. Je trouve ça juste bouleversant d'imaginer que, au lieu d'hurler, au lieu de crier, enfin, elles aient fait monter ce chant vers le ciel. Avec cette mémoire qui les habitait de toute cette liturgie qu'elles avaient fait monter vers le ciel avant de chanter évidemment cette liturgie, comme le jeune Antoine quelques siècles auparavant au même endroit, eh bien avant de poursuivre cette liturgie au ciel, et bien sûr que Antoine de Nagasaki et ses nonnes de Nagasaki aujourd'hui chantent la liturgie au ciel. Bref, donc tout ça pour vous dire que effectivement le chant en général, et le chant grégorien en particulier, est donc une école de la mémoire. Et donc, quel drame, eh bien, que nous ayons abandonné, que nous ayons eu cette sorte d'amnésie collective, bien sûr qui a résulté d'une volonté explicite ces dernières années d'une rupture avec l'héritage des siècles passés. C'est un drame parce que cette perte de mémoire fait qu'aussi c'est une perte de culture. Et il y a quelque temps, je rentre dans une église avec un séminariste de mon diocèse. Il voit sur un vitrail marqué Adorote Devote. Il dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je lui dis, c'est une blague, tu connais pas l'Adorote Devote. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, tu peux pas être séminariste et ne pas connaître l'Adorote Devote. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est cette perte de la mémoire, de la tradition, est évidemment pas du tout de bon augure pour notre civilisation qui, évidemment, faute de racines, a bien de la peine à aller de l'avant. Je voudrais terminer donc en vous rappelant aussi quelques autres caractéristiques du chant grégorien. C'est un chant qui est d'une suprême liberté. Vous savez que si on demandait, enfin, si on faisait un petit sondage, quel est le chant le plus rythmique? Assez spontanément, je pense que beaucoup d'entre vous diraient une marche militaire, ça c'est rythmique. Mais en fait, d'un point de vue rythmique, la marche militaire, c'est ce qu'il y a de plus pauvre. Parce que c'est. Enfin voilà, ou un vieux morceau de techno, ou ce que vous voulez, enfin bref, c'est vraiment au niveau du rythme, mais c'est d'une pauvreté absolue, il n'y a rien, que dalle, que chic. Voilà. Le chant grégorien, paradoxalement, est certainement le chant le plus rythmique qui soit, parce que sa rythmique est libre. Impossible de battre la pulsation d'un chant grégorien, vous n'y arriverez pas, parce que sa rythmique se renouvelle sans cesse, et donc il y a, c'est le rythme du mot latin, et c'est, pour ainsi dire, l'un des seuls chants aujourd'hui pratiqués qui soit à ce point libre. Bien sûr, cette liberté du chant grégorien, ce rythme intense du chant grégorien, nous parle de la liberté de l'âme en Dieu. C'est une illustration extraordinaire de la liberté de l'âme en Dieu. Je vous raconte une anecdote. Si j'ai encore 3 minutes pour le faire. Nous étions pardon, je retourne encore au Japon. Nous étions au Japon pour un concert de chant grégorien. Et il y avait 10 000 personnes massées c'était dans le cadre de l'exposition universelle. Et donc, ils avaient invité d'autres chanteurs à se produire. Et à la fin, tout le monde devait être accompagné par les percussions japonaise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des percussions japonaises, mais c'est un truc hallucinant. C'est une sorte de gymnaste donc qui fait des figures avant de frapper les tambours avec une puissance inouïe, puisque comme c'est une sorte d'art martial, eh bien, il frappe avec une force inouïe. Et alors quand les Japonais entendent ça, ils entrent dans une sorte de transe. Voilà, ils se mettent à taper dans les mains. Enfin, voilà, ça. Et alors donc les différents chœurs qui étaient présents devaient à la fin être accompagnés par les percussions japonaises au moment de la répétition. Donc il y avait un chœur de gospel américain, donc ça marche du tonnerre, wapide, ça marchait, voilà. Donc voilà. Il y avait d'autres chœurs de différents peuples, différentes cultures, ça marchait du tonnerre aussi pour eux. Arrive la Scola Grégorienne, nous on chantait le Grand Salvé. Salve Regina. Et alors là, on a vu la percussionniste se décomposer, parce que évidemment, elle a essayé de taper l'une ou l'autre fois, mais elle savait jamais quand taper. Enfin, je veux dire, elle était juste, enfin, littéralement à se décomposer. Et puis on l'a vu sortir, et puis revenir avec des cloches traditionnelles qu'elle a agitées comme ça. Alors arrive le soir du concert, 10 000 personnes massées sur la grande place. Les percussions japonaises, donc là, tout le public est en train de rentrer dans une sorte d'excitation, de transe. Le concert s'appelait Les Voix de la Prière. Je ne sais pas très bien où était la prière, mais. Et puis soudain, jaillit le Grand Salvé. Et là, il y a eu un silence, mais un silence, mais qui nous a estomaqué. C'était un truc juste dingue. Et à la fin du Grand Salvé, le public est resté silencieux, mais longuement. Voilà, et je me suis dit, bah, voilà, c'était une démonstration absolument inouïe, non seulement bien sûr du caractère si intérieur, et puis aussi de cette richesse rythmique tellement riche, tellement complexe rythmiquement, que voilà, il n'était pas possible de battre le rythme sur ce chant, tellement c'est un chant riche rythmiquement. Voilà, voilà le chant propre de la liturgie catholique, qui est aussi un chant totalement anonyme. Puisque je ne peux pas vous citer le nom d'aucun compositeur du chant grégorien. Olivier Messiaen écrivait « La musique sacrée repose sur le fait que Dieu n'a pas commencé. Le plein chant est un travail humble, anonyme, dont la simplicité rejoint cette absence de commencement. Toute musique capable de renoncer à la progression dramatique pour se heurter contre le mur du non-commencement est par là même sacrée. » Pour moi, le fait que ce chant, on ne sait pas qui l'a composé, eh bien, manifeste à un très haut degré son caractère sacré. Et il poursuit, « Une chose va vous surprendre. En tant que musicien religieux, ce que je jalouse le plus, c'est l'anonymat des compositeurs chrétiens du Moyen-Âge. Ils ont écrit tout le chant grégorien. Il y a là des mélodies et des rythmes admirables. Personne ne sait de qui. Ce travail artisanal et de compagnonnage se situe aux antipodes de l'orgueil des compositeurs du XXe siècle. » Voilà, donc cette humilité incroyable de ce répertoire dont on ne sait absolument pas qui l'a composé est aussi quelque chose de tout à fait stupéfiant. Voilà, alors, je voudrais conclure en soulignant la grâce immense pour moi de transmettre aujourd'hui ce répertoire à la Bille à Lucerne. Donc nous avons cette vocation d'accueillir à longueur d'année des quantités de jeunes qui veulent se former au chant grégorien. On le fait de mille manières. On organise des régates grégoriennes, des routes grégoriennes, des raclettes grégoriennes. Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait un des projets pour la transmission du chant grégorien. J'encourage vivement ce projet. Enfin voilà, il faut faire preuve d'inventivité pour pouvoir donc rendre à notre mémoire occidentale donc son chant propre. Je l'ai dit, donc nous avons dans le chant grégorien véritablement la fons et origo de toute la musique occidentale. Impossible de rien comprendre de la musique occidentale actuelle sans faire référence au chant grégorien. Le type anglo-saxon qui joue de la gratte et qui va placer son accord en mettant E, D, F au-dessus de ses accords, sans le savoir, utilise le système de Guillaume de Volpiano, qui était abbé de Saint-Bénigne de Dijon au XIe siècle. Voilà, enfin, bref, tout vient du chant grégorien. Et cette méconnaissance est évidemment aujourd'hui un drame. Et donc, on ne peut qu'appeler de nos voeux que ces répertoires sacrés, partout soient réappropriés, que partout ils puissent nous accompagner au long de notre pèlerinage terrestre jusqu'à la cité céleste où nous connaîtrons en Dieu l'éblouissement. Seigneur, musique et poésie m'ont conduit vers toi, par image, par symbole et par défaut de vérité. Seigneur, illumine-moi de ta présence, Délivre-moi, enivre-moi, éblouis-moi pour toujours de ton excès de vérité.
Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Thank you.